J'ouvre en moi-même un théâtre où se joue un faux sommeil. Georges Bataille, la haine de la poésie. Avec Juliette Bernatchez et Simon Dumas. Bienvenue à La haine de la poésie, une émission qui cherche à mettre en lumière un imaginaire collectif de la poésie, comme une façon qu'elle a d'être à la fois partout et invisible, ignorée même, mais jamais totalement absente de la vie de quiconque. Deux fois par mois, nous vous proposerons une rencontre avec une personne active dans la société, que ce soit sur le plan culturel, politique ou philosophique. Nous leur demanderons ce qu'est la poésie pour eux et quelle est la place qu'elle prend dans leur vie, et ce, même s'ils n'en lisent pas.
Pour la première émission de l'année 2021, on reçoit Mireille Gagné. Romancière, nouvelliste et poète, Mireille Gagné est née à L'Île-aux-Grues et vit à Québec. Elle a publié 4 recueils de poésie aux éditions de l'Hexagone. « Les oies ne peuvent pas nous dire » en 2010, « Les hommes sont des chevreuils qui ne s'appartiennent pas » en 2015, « Minuit moins 2 avant la fin du monde » en 2018 et « Le ciel en bloc » en 2020. Elle est également l'autrice de 2 recueils de nouvelles et vient de sortir son premier roman, « Le lièvre d'Amérique » aux éditions La Peuplade. Le passage de la poésie au roman de cette autrice nous intéressait particulièrement. En effet, elle se place en position de transfuge de genre littéraire et c'est ce que nous allons explorer avec elle au courant des prochaines minutes. Tel que mentionné en début d'émission, tu as à ton actif 4 recueils de poésie, 2 recueils de nouvelles et 1 roman. Qu'est-ce que la poésie a de spécial? Quelle est sa spécificité parmi les genres littéraires que tu pratiques, selon toi?
Je pense que côté poésie, quand je commence à écrire un livre, je ne sais jamais de quelle manière ça va sortir. En fait, c'est vraiment les premières phrases, les premières images qui vont arriver, qui vont déterminer si j'écris de la poésie, j'écris une nouvelle ou j'écris un roman. Donc, dernièrement, c'est ça, j'ai eu plus de souffle pour écrire un roman, plus de temps aussi. Mais en poésie, ça vient vraiment d'une manière très naturelle. C'est souvent dans l'inconscient. Tu sais, je me réveille le matin, j'ai eu un verre pendant la nuit. Je me lève, puis j'ai l'impression que je tire sur un fil, puis le recueil se construit de cette manière-là. Pour moi, qu'est-ce qui est différent avec la poésie, c'est vraiment dans le défrichage de l'émotion, des symboles. Si on regarde logiquement la suite de mes écrits, il y a toujours, même si en finalité, ils ne sont pas publiés dans l'ordre qu'ils sont écrits, il y a toujours une période de défrichage, comme dans Le ciel en bleu. Je l'ai écrit quelques mois avant le roman « Le lièvre d'Amérique ». Donc, je commençais à aborder le sujet du travail dans la création. C'est une partie qui est vraiment destinée au bureau. Donc, pour moi, c'est un peu ça. C'est une période de défrichage. Je vais analyser des symboles, je vais analyser le langage. Je vais faire beaucoup de lectures là-dessus. Puis, c'est comme ça que ça va se construire par la suite. Donc, moi, je considère vraiment que, pas que c'est le premier jet, là, mais c'est la première coupe de foin avant de faire tout le reste de l'été pour un ouvrage après. Là. Donc, je veux vraiment analyser tout ce qui est symbolique, tout ce qui touche à l'inconscient un peu. Puis je vais vraiment beaucoup plus loin que dans le roman. Dans le roman, on s'entend, je m'arrête à un certain moment pour garder un lien avec le réel. Tandis qu'en poésie, il n'y a aucune frontière, en fait, que je les abolis. Puis je me rends assez loin dans l'image pour essayer de déstabiliser davantage le lecteur puis laisser place aussi à l'émotion qui peut vivre à travers ça.
Donc, tu dirais qu'à un certain moment, lorsque tu écris un roman, tu arrêtes le processus de recherche pour poursuivre le filon que tu as exploré. Mais en poésie, la recherche et l'analyse sont toujours présentes du début à la fin.
Oui, exact. C'est peu importe qui va m'alimenter dans la journée quotidiennement. C'est ce qui va puiser la force, dans le fond, de chacun des poèmes par la suite.
Puis, par rapport à ton roman, quand est-ce que tu as senti que tu avais trouvé le filon?
Au départ, je voulais faire une longue nouvelle, peut-être. Tu sais, là, j'ai commencé à écrire une partie, là, la partie qui parle plus du... après l'opération, là, dans le fond, de mon personnage Diane, qui subit une opération génétique mystérieuse. Puis après coup, je me suis rendu compte que je pouvais rajouter. En fait, même si j'ai eu cette constatation-là dernièrement, c'est comment je fais une distinction entre la nouvelle puis le roman, c'est vraiment là. C'est à partir du moment où je suis capable, j'ai assez à cœur l'idée pour la pousser plus loin, mais c'est surtout, j'ai plus de matériel. Je peux aller, chaque nouvelle peut devenir un roman en tant que tel si on creuse, si on lui amène d'autres perspectives. Mais c'est pas toutes les idées qu'on peut approfondir assez pour se rendre jusque dans le roman, en tout cas de mon côté, là.
Parlons-en de ton livre d'Amérique. Il a été publié tout récemment et c'est ton premier roman. Il a une très grande portée médiatique et est nominé pour plusieurs prix dans toute la francophonie. C'est assez exceptionnel, on le voit vraiment partout en ce moment. On se demandait donc comment tu te sentais face à cet accueil de ton premier roman, en comparaison surtout avec l'accueil de tes recueils de poésie ou avec l'accueil que tes recueils de nouvelles ont eu par le passé.
Ben, tu sais, j'ai l'impression qu'en abordant le roman, c'est clair que je deviens peut-être un petit peu plus grand public que la poésie, on se cachera pas. Là, c'est la poésie, on a des tirages, des plus petits tirages qu'en roman. Mais tu sais, je suis vraiment encore ahurie du succès de ce livre-là. Tu sais, moi-même, en l'écrivant, j'avais une discussion avec mon éditeur, je me posais la question, je me disais, c'est en pleine... Parce que moi, j'ai terminé de l'écrire peut-être au mois de février, puis après ça, mars, c'est arrivé la COVID, et je me disais, sincèrement, c'est quelle réception, c'est un peu absurde la thématique comparée à qu'est-ce qu'on vit présentement avec la COVID. J'avais moi-même cette réflexion-là de me dire est-ce que les gens vont vraiment avoir une bonne réception de mon roman. Puis, c'est étonnamment, c'est arrivé dans un moment où malgré ce qu'on nous disait, c'est de prendre le temps, faites de la pâtisserie, faites plein de trucs, c'est pour pendant votre confinement, c'est les gens travaillaient plus que jamais ou à peu près. Il y en a plusieurs, du moins. Là, moi, c'était mon quotidien. J'étais en pleine effervescence. Il fallait qu'on rétablisse tout au travail. C'était quand même difficile. Je me suis dit, je m'attendais pas à ce que, justement, plusieurs personnes aient vécu la même chose que moi. Il fallait même réussir notre confinement. Il fallait faire notre pâte à pizza puis notre pain. Il fallait le réussir. Là, quand on survivait à peine tout le monde. Fait que je pense que c'est un peu ça. La porte s'est ouverte. C'est un peu comme ça que le livre est rentré en Europe, du moins, là, tu sais, j'ai l'impression. Puis ça a touché beaucoup en Europe les femmes qui travaillent fort, la carrière, les enfants, qui essaient d'allier tout ça. J'ai l'impression qu'en Europe, ça a vraiment touché une corde sensible auprès de ces femmes-là qui n'avaient pas arrêté, puis que le quotidien était vraiment effervescent. Mais sincèrement, je pense qu'on a ça une fois dans notre vie. Là, tu sais, j'en suis vraiment consciente. Je suis très, très heureuse. Ça met la barre haute pour une prochaine publication. J'ai sorti mon ciel en bloc après le livre d'Amérique. Puis il devait sortir avant le livre d'Amérique, mais il a été repoussé là à l'automne. Puis tu sais, c'est vraiment différent la réception là des deux. J'ai souvent l'impression qu'on se fait peut-être plus inviter en tant que poète à réciter parce que ça se récite bien en fait la poésie. Mais tu sais, je trouve qu'il y a une réception aussi vraiment vraiment très bien pour la poésie là, particulièrement en ce moment, je trouve là. Mais tu sais, c'est clair que quand on touche au roman, on est un petit peu plus grand public. Mais tu sais, moi, je fais pas ça pour... On est heureux quand on a du succès, vraiment. Mais tu sais, moi, je suis un peu dépendant de ce qui va arriver. Tu sais, si, mettons, c'est de l'écriture, de la poésie qui va sortir pour le prochain, ben tu sais, je me limiterai pas au fait que le roman a plus de public cible. Tu sais, moi, je vais vraiment y aller en fonction de ce que l'inspiration me donne. Puis tu sais, j'espère écrire un autre roman, mais tu sais, je le sais pas. Ben, tu sais, moi, j'ai toujours été considérée comme très poétique, mettons, dans mon écriture narrative, très narrative dans mon écriture poétique, là. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que il y a peut-être, la frontière est peut-être floue chez moi, là. Il y a plusieurs personnes qui ont lu du roman, de la nouvelle, qui m'ont dit, ah, tu sais, la poésie était quand même accessible, donc on la comprenait. J'ai peut-être l'impression que c'est une suite logique. Tu sais, moi, si je regarde toutes mes œuvres les unes après les autres, je trouve qu'elles forment quand même un tout. Elles se complètent bien. Tu sais, les personnes qui lisent, tu sais, moi, je pense que c'est ça. Je vais plus chercher en poésie même, là. C'est des gens qui n'ont pas naturellement un penchant pour la poésie, comme c'est des petits poèmes, c'est quand même très narratif, c'est ça. On peut suivre une histoire à travers le recueil en tant que tel. Tu sais, je pense que c'est une porte qui est un peu plus grande verte pour certains publics.
Mais peut-être qu'on pourrait parler aussi là, des thèmes que tu abordes, là, parce que, bon, ton écriture revient constamment aux sources, donc le fleuve, l'île aux grues, c'est bien l'île aux grues. Donc c'est aussi le cas dans le livre d'Amérique, c'est le cas aussi dans plusieurs de tes recueils de poésie. Puis d'ailleurs, là où ton personnage est moins unidimensionnel justement, c'est quand on retourne vers la fin de son adolescence, là, son histoire avec Eugène. Donc, il y a quelque chose d'espèce de retour aux racines, retour aux sources, retour au thème fondateur de ton écriture aussi. On pourrait peut-être aborder ça un petit peu.
Oui, je pense que clairement, c'est l'îlot Gru, c'est vraiment un symbole chez moi qui représente la plénitude, qui représente vraiment les racines où je suis née. T'sais, moi, j'ai quitté quand même très tôt l'îlot Gru, là, je suis retournée quand même beaucoup, là. Mais c'est à 5-6 ans que j'ai vraiment quitté l'île. Ça a été une grosse déception de ma part de quitter pour aller à Montmagny. Mais c'est clair que, tu sais, moi, je vais vous le dire, j'ai toujours des lieux d'écriture. C'est-à-dire que moi, j'écris sur un coin de table n'importe où, là, avec les enfants, le travail. Je suis capable de me créer une bulle assez rapidement, mais je me projette vraiment dans un environnement qui est très précis. C'est comme ça fait des années qu'un de mes lieux d'écriture, je suis comme assise dans ma tête, mais sur une côte qui est à l'île aux grues, qui donne vers Montmagny. Donc, j'ai souvent l'impression que je suis assise là puis que j'écris. C'est un peu ce qui s'est passé avec le livre d'Amérique. Tu sais, je me suis vraiment ressourcée là. J'ai vraiment voulu écrire à partir de ce lieu-là, un lieu qui est calme, qui est aussi un lieu qui nous fait prendre conscience à quel point l'humain a pas tant de pouvoir autour de lui. Tu sais. À l'île aux grues, t'attends les marées. Si la marée est pas haute, tu peux pas traverser. À moins d'aller en chaloupe, là, mais c'est même de là. Tu sais, tu marches tellement longtemps dans de la glace et dans de la roche, c'est quasiment impossible. Donc, il y a le fait qu'il y a une tempête, ben, on peut pas sortir. On est vraiment dépendant des éléments de la nature. J'aime bien me remettre en question, puis revenir à cet état-là où on n'a pas le contrôle sur tout, parce que c'est un peu ça mon pépin dans la vie, de vouloir contrôler un peu trop de trucs. Puis me remettre dans ce lieu-là où, en fait, j'abandonne la partie déjà en partant, là, puis que c'est moi qui deviens la proie et non le prédateur. Donc, j'aime me sentir dans cet état-là que je n'ai pas le contrôle sur quelque chose. Puis c'est un peu pour ça que cette inspiration-là revient régulièrement. Mais tu sais, j'essaie de pas le faire à chaque livre. Mais minuit moins deux, par exemple, là, je me rappelle très bien que mon lieu de création, c'était l'arrêt d'autobus sur le boulevard Laurier, en face de Place Laurier. C'est un lieu affreux, là. Ben, tu sais, j'ai écrit tout mon livre dans ma tête, assise dans ce foutu abri d'autobus-là où il y avait les choses les plus laides possibles qui pouvaient survenir. Mais il y avait aussi le vent, il y a le côté nature qui, malgré la ville, qui prend le dessus, qui vient de fouetter. C'est ça, j'avais ce lieu de création-là, toujours confronté entre la nature et la ville.
Ben c'est vrai que tu sais il y a vraiment une opposition ville nature effectivement là. Et d'ailleurs tu as choisi de situer Diane à Montréal, ce qui est assez ce qui m'avait surpris. Mais est-ce que c'est parce que tu habites à Montréal que tu as choisi de situer Diane à Montréal ou tu voulais avoir comme l'espèce de paroxysme urbain pour accentuer le contraste ou
Je trouvais ça intéressant de choisir comme lieu Montréal pour Diane, mon personnage, parce qu'il y a vraiment c'est une île aussi. C'est important pour moi que ce soit le parallèle entre l'île aux grues, l'île de Montréal. Donc, ça a été vraiment mon principal choix. Puis par rapport à l'effervescence, le biodôme aussi, c'est important pour moi qu'il y ait une source de nature vraiment extérieure, faite par l'homme, recréée pour qu'elle reprenne conscience avec sa véritable nature. Donc, il y avait quand même plusieurs éléments qui étaient importants pour moi, pourquoi j'ai choisi Montréal. Puis aussi, j'ai adoré habiter à Montréal, mais l'effervescence et le tourbillon que dans cette ville-là, m'étourdissait, puis je m'en rendais pas compte jusqu'à ce que je sorte de l'île. Puis une fois que je sortais de l'île, je me disais, oh mon Dieu, enfin, je respire, tu sais. C'est un peu ça que je voulais qu'elle vive, Diane, en sortant de la ville, puis qu'elle reprenne ses racines.
Diane chemine vers une transformation en lièvre d'Amérique. Donc, il y a ce côté, ce thème de ce côté protéiforme qu'on retrouve aussi dans ton écriture, le fait aussi que tu dis que tu n'écris pas à destination d'un genre littéraire, donc tu commences à écrire puis tu découvres par la suite quel genre ça va être. Et cette mouvance-là, donc peut-être j'aimerais ça aborder ce thème-là, là, tu sais, le fait d'être que l'écriture elle-même soit protéiforme. Puis toi, est-ce que tu te considères un peu comme protéiforme?
Bien, je pense qu'on l'est tous un peu. On est tous en période de transformation à un moment ou un autre de notre vie. Là. C'est ce que je trouvais intéressant. Moi, ce que j'aime beaucoup analyser, c'est la mince frontière entre l'animal, l'homme, le proie, la prédateur, c'est à quel moment on se transfère de l'autre côté, qu'on devient le prédateur ou la proie. Je trouve ça vraiment intéressant. Chez les animaux, c'est très clair, cette frontière-là. Je me rappelle, pour avoir été quelques fois à la chasse, c'est pas le mot soumission, là, mais c'est l'acceptation du destin d'un animal qui est blessé, mais qui est pas encore mort. Toute cette acceptation-là que nous, on n'a pas en tant qu'humain, on a cette morale-là, on a cette réflexion-là qui arrive, qui essaie de nous faire avancer puis de nous faire survivre, que les animaux ont naturellement. Donc, ils vont accepter le sort. Je me rappelle une fois, j'avais tiré une oie, elle était tombée loin, je l'avais cherchée des minutes très longues, puis je l'avais trouvée, elle était pas morte, il fallait que je l'achève. Puis je me disais, c'est abominable faire ça, c'est vraiment abominable. Je me rappelle, les larmes coulaient toutes seules, puis j'avais mon père qui me criait, tu sais, ah oui, t'sais, achève-la, achève-la. T'sais, j'ai fini par l'achever, mais t'sais, l'oiseau avait déposé sa tête devant moi, comme une acceptation de son sort. T'sais. Il y a comme quelque chose de sacré là-dedans, que je connais dans la chasse, qu'on connaît très peu chez les humains. Puis j'aime faire ce transfert-là chez l'humain, c'est-à-dire une certaine acceptation que nous, on n'aurait pas en tant qu'humain, mais que là, on la pousse vraiment à son maximum, comme si on était une bête, comme si on était un animal. Puis je trouve à chaque fois que ça donne quelque chose de tellement intéressant à creuser. C'est comme Diane, un être humain normal refuserait cette transformation-là. T'sais. Tandis que Diane, elle l'absorbe d'un coup, elle voit son corps se transformer, son comportement se transformer, mais pour elle, c'est pas quelque chose de négatif. T'sais. C'est vraiment, bon, elle est un peu ahurie de ce qui lui arrive, mais quand même, elle l'accepte, puis elle laisse aller cette transformation-là. Puis c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans le processus d'écriture. Tu sais. Puis après coup, je me suis dit, c'est quelque chose qui aurait pu être écrit aussi en poésie. Là. Tu sais, j'analyse souvent cette frontière-là, j'aime ça. Puis cette transformation-là aurait pu être aussi... j'aurais pu la faire dans un recueil de poésie, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de très, très concret dans cette transformation-là. Puis donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'y aller plus en format de roman. Mais tu sais, oui, je pense qu'on a tous cette transformation-là à l'intérieur de nous, mais on a un senseur qui nous empêche souvent d'aller de l'avant et qui nous bloque un peu, ce que les bêtes n'ont pas.
J'ai entendu des cris d'outard derrière le paysage en plastique. Je les ai cherchés attendus entre les gratte-ciels, les pylônes, sous les ponts, les stationnements. Jamais elles ne me sont apparues. Où elle est-elle? Au-delà de quoi? Jaune, vert, jaune, rouge, jaune, vert, mon corps composé de strates, de vagues souvenirs mal emboîtés, deux dans trois, dans quatre, dans cinq, dans neuf. En me regardant dans le miroir, je ne vois que de larges trous, le vent y circule librement, lui. Ça doit arriver à tout le monde, on se lève trop tard un matin, on ouvre, on ferme les yeux, on accélère, on court après un enfant, un morceau tombé dans une craque du divan, ou peut-être avalé par l'aspirateur. Tant pis, personne ne s'en rendra compte, il aura simplement cessé d'exister. Le rapport médical indique un taux élevé dans le sang d'acrylonitril butadiène styrène. Après que j'aurai rendu l'âme, mon corps sera incinéré, ses cendres saupoudrées sur les céréales des enfants, ça s'appelle le cycle de la vie. Génération après génération, les miens ne collectionnent que des têtes au visage neutre, sans sourcils, juste assez souriants, c'est plus facile de passer inaperçu. Je viens de faire l'acquisition d'un nouveau kit repos garanti avec un parasol jaune, une pizza, un drink et une crème glacée. Confortable dans ma chaise longue, je remarque le soleil bouge. Certains édifient bien trop vite leurs univers immensurables. Ils percent d'échiquettes le ciel. D'autres ne découvrent jamais leurs fondations faites de blocs. Le présent fuit de toutes parts. Après chaque bordée, j'ai beau pelleter, les blocs réapparaissent toujours, envahissent la cour, la galerie, il manque toujours de profondeur pour les enfouir. Jamais nous ne regardons vers le haut, vers le bas, le visage tourne bien de gauche à droite, de droite à gauche, le regard embrasse assidûment l'horizon, le ciel n'est pas un territoire. Examinez-moi bien. Mon sourire ne s'ouvre pas, mes mains ne tiennent rien, mes hanches restent figées, Quand mon corps sera démembré, il ne restera plus rien de moi, sinon des trous par où jaillira la lumière. Il y a environ 2 semaines, de nouveaux voisins sont arrivés dans le quartier. Personne ne les a vus emménager. Au cours de la nuit, on les soupçonne d'avoir poussé comme des champignons. On les aperçoit de dos, la plupart du temps, étrangers, impénétrables, un léger ondoiement dans la voix, la démarche. Ils ne nous ressemblent pas. Tout le monde les observe, déplace un châssis, un arbre pour mieux les espionner. Moi, j'ajoute des blocs, des briques, au moins 2 couches d'épais pour les murs, l'asphalte, le toit. Hier, je crois même avoir entendu le rire du plus jeune de leurs enfants. Ils sont d'une autre race. Ils cultivent leurs enfants sans les récolter. Ils n'empoisonnent pas les mauvaises herbes. Ils ne délimitent pas leur cours non plus. Ils l'élargissent d'un cri. Ils finissent toujours par trouver les outardes. Ils croient au ciel en bloc. Leurs enfants jouent souvent avec des figurines en plastique. Ils les font parler, rire, pleurer. Debout de l'autre côté de la rue, je me demande ce que ça fait comme impression par en dedans. Depuis qu'ils sont arrivés, ma famille ne me parle plus. Chacun tente de trouver la pièce qui le ferait vivre. J'essaie quotidiennement de nous reproduire à l'identique. Une nouvelle plaque de base, 4 personnages alignés les uns à côté des autres, mais je n'arrive jamais à nous faire tenir par la main. Les enfants ont tenté une expérience. Ils ont volé de la terre aux voisins, l'ont transvidé dans un bac, ont enlevé leurs jambes, les ont plantées et les ont arrosées pendant 1 semaine. Pas un seul bébé n'a poussé. Un soir, les voisins me saluent, un simple bonjour étouffé par le grondement d'une tondeuse. Je m'efforce de leur répondre, mais ma tête a une bouche fermée. Pendant des jours, le mot résonne, s'infiltre, crée un jour entre la plaque et mes pieds. À chaque pas, mon corps en déséquilibre vacille, j'ai peur. Le vent se lève, je risque de tomber, on ne se souviendra que de mon effondrement. Et je chute, brutalement, à plat ventre. Ma tête roule déjà trop loin, quelqu'un a mis le son du ciel à off. Et puis le vide absolu dans mon corps, mes bras, ma poitrine, mes jambes, une douleur lancinante occupe tout l'espace. Puis un battement sourd, le premier, un autre, encore un autre, et puis le plein absolu. Je me relève solide, mes pieds de nouveau enfoncés dans ma plaque, il faudra tout recommencer. Je rentre à la maison, sors une nouvelle tête du fond de la garde-robe, emballée avec sa facture, je l'enfonce sur mon cou et regarde autour de moi. À coups de pied, je détruis la maison, le plancher, le toit, la télé, les fauteuils, l'escalier, les lits. Je m'arrête enfin aux enfants. À eux aussi, je mets une tête sans visage.
Finalement, on pose souvent cette question, cette dernière question aux invités parce qu'on croit qu'elle est vraiment révélatrice de la démarche d'écriture des auteurs-autrices qu'on reçoit à l'émission. Donc, je paraphrase Deleuze qui cite Foucault. Il dit « L'art n'a rien à faire et à voir avec la communication, mais l'art a une affinité fondamentale avec l'acte de résistance. » Si on résume, l'acte de communication serait la transmission de mots d'ordre, ce que les artistes ne font pas seulement. Ça fait en sorte que l'art serait plus du côté de l'acte de résistance que de l'acte de communication. Ainsi, je me demandais à qui ton art s'adresse, premièrement. Ça se décline en une sous-question. Est-ce que ton art communique ou il résiste, selon toi?
Bien, moi, je pense que je suis plus de la... Je me considère plus comme de la résistance. J'avais un poème qui disait « Je suis une corneille dans un arbre, un point qui résiste ». Pour moi, la résistance est vraiment importante. C'est ce qui nous fait prendre conscience avant de changer quelque chose de fondamental en soi. Donc, j'ai l'impression qu'il faut de cette poésie-là, il faut de l'écriture pour nous faire prendre conscience de qui remettent en surface certaines quêtes qu'on a oubliées avec le temps parce que le quotidien nous a vraiment avalé tout cru. Tu sais, moi, j'aborde beaucoup la question d'humanité. Derrière mon écriture, j'ai toujours quelque chose, un problème psychologique à résoudre, c'est clair, là. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être ce qui fait que les gens se sentent un peu plus touchés. Aussi, tu sais, je vois beaucoup dans l'anticipation. Tu sais, moi, mes écrits, je les trouve, dans ma tête, sont toujours 20 ou 40 ans dans le temps plus loin que ce qu'on est dans le présent. Donc, tu sais, j'essaie toujours d'aller chercher un futur effroyable qu'on voudrait pas qu'il arrive, mais qui va sans doute arriver parce qu'il est pas si, la limite est tellement fine entre ce qui pourrait arriver et ce qui n'arrivera pas, là. Tu sais, que je pense que j'aime creuser là-dedans. C'est comme dans Minuit moins deux avant la fin du monde, c'est un peu ça. Puis je me propulsais un peu plus loin dans le temps, à savoir à questionner le vide puis le fait qu'on se remplit pas en tant qu'humain. Donc, tu sais, j'essaie vraiment d'analyser cette frontière-là de l'humanité. Donc, tu sais, je pense que les gens, qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans ces écrits-là, c'est peut-être un constat de notre réalité pour ne pas se rendre jusque-là, tu sais. Avec le workaholic, j'essayais notamment, puis je me rappelle, il y a une page que j'ai écrite, tous les symptômes possibles du burn-out, tu sais. Je me suis dit, si par cette lecture-là, il y a certaines personnes qui se disent, ah ben, coudonc, tu sais, je n'ai comme une dizaine sur la quarantaine. Ah ouais, j'en ai une vingtaine, tu sais. Ben, parce que moi, j'en voyais plein de ces signes-là en me disant, ah, pas grave, je vais continuer. Mais à un moment donné, il y a une accumulation beaucoup trop intense, puis c'est là qu'on tombe en burn-out, on s'en est même pas rendu compte. Donc, c'est vraiment des trucs comme ça que j'essaie de mettre dans mes écrits pour que peut-être les gens prennent conscience, justement, qu'on est toujours sur un point de bascule, puis on n'est pas loin, là. On est toujours à la limite de basculer vers quelque chose. Donc, tu sais, moi, je pense que c'est un peu ça que j'essaie de travailler dans mon écriture, c'est de faire prendre conscience aux gens que, justement, on a encore le temps de reculer puis de prendre le temps d'avoir cette réflexion-là envers nous-mêmes, envers la nature. C'est important pour moi aussi, cette quête environnementale-là, c'est de pas laisser dépérir davantage ce qu'on a de plus précieux.
Ce que je trouve intéressant, c'est que il y a quand même un acte de communication dans ce que tu dis. Tu donnes des pistes au lecteur, par exemple avec la liste de choses qu'il ne faut pas faire pour avant de faire un burn-out. Donc, c'est quand même intéressant parce que, justement, tu donnes des pistes de choses à faire pour finalement résister, pour ne pas te rendre là.
Je me dis, moi, je suis très minimaliste dans mon écriture. Autant en nouvelles qu'en roman, qu'en poésie, tu sais, chaque mot est compté. Là, puis, tu sais, j'en coupe. Tu sais, moi, je coupe toujours 50% de tout ce que j'écris, là, au moins, là. Je pense que c'est là que ça se passe, la communication. C'est quand moi, en tout cas, dans mes procédés d'écriture, c'est d'enlever le plus possible d'informations qui ne sont pas pertinentes, qui sont superflues, pour justement permettre au lecteur que ça ait une résonance différente chez lui. Mais, tu sais, il y a plein de choses comme ça, c'est que les gens vont percevoir parce que, justement, j'en dis tellement pas beaucoup dans le roman. Je suis pas très explicite. Justement, j'ai l'impression que c'est peut-être là que la communication se fait. C'est dans le non-dit, dans tout ce que j'ai enlevé. Dans la poésie aussi, dans la nouvelle, je tiens à ce que ce soit vraiment, que ça rende mal à l'aise le lecteur à la limite pour que justement il y ait un acquis de conscience, qu'il y ait quelque chose qui se soit amorcé à l'intérieur, qui opère un changement. C'est un peu la même chose que j'ai essayé de faire dans le roman. Je savais pas si ça allait fonctionner, mais j'ai essayé d'enlever le plus d'informations possible pour que justement ce soit perçu totalement différent d'une personne à l'autre. C'est un peu ce que j'ai comme réponse. Si on pose vraiment des questions très précises, je me dis, sont toutes bonnes les réponses. Si je m'organise pour que toutes les réponses soient possibles. C'est ça qui est le fun, justement, dans la nouvelle, quand on a une discussion avec un auteur, c'est de savoir c'est quoi sa vraie perception, puis sa véritable idée, puis c'est quoi la perception des autres. Moi, je trouve ça vraiment intéressant.
Communiquer moins pour résister mieux.
Exact. C'est très bien. Ça me résume à la perfection.
Une production de Rhizome qui remercie CKRL. Et la Ville de Québec via son entente sur son développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.